Place Info.
Bienvenue dans le 8h30 France Info, à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT, avec notre invité donc aujourd'hui Valérie Rabault, députée socialiste du Tarn-et-Garonne et présidente du groupe socialiste et apparenté à l'Assemblée nationale. Bonjour Valérie Rabault.
Bonjour.
Et bonjour Naila Latrousse, à mes côtés bien sûr, et pour vous poser la première question.
Bonjour Julien, bonjour Valérie Rabault. Le 28 avril à l'Assemblée nationale, il y a plus de 3 mois, Édouard Philippe, encore Premier ministre, disait ceci.
À la sortie du confinement, nous serons en capacité de massifier nos tests. Nous nous sommes fixé l'objectif de réaliser au moins 700 000 tests virologiques par semaine au 11 mai.
Alors 700 000, nous n'y sommes pas, malgré les renforts de personnel, infirmiers, aides-soignants, étudiants, qui peuvent aider pour les prélèvements. Il manque des bras dans les laboratoires. Est-ce que c'était prévisible? Est-ce que c'est la faute à pas de chance?
Non, c'est jamais la faute à pas de chance. C'est la faute à pas d'organisation suffisante. Cette question des 700 000 tests, nous avons écrit au Premier ministre juste après son intervention à l'Assemblée nationale en lui disant « Mais comment concrètement vous allez faire ?» Le gouvernement, parce qu'effectivement il y a le matériel et puis il y a les prélèvements qui sont quand même assez longs. Donc le gouvernement, samedi dernier, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, il y a 3 jours, a fait passer en urgence un décret pour permettre, comme vous venez de le dire, aux sapeurs-pompiers, aux aides-soignantes, aux étudiants de pouvoir faire les prélèvements. Mais ça, c'était prévisible. Il n'y avait pas besoin d'attendre début août, le 1er août, pour le faire.
Il fallait prévoir les départs en vacances, il fallait interdire les vacances des personnels des laboratoires.
Il fallait faire un planning de dire comment on fait ces prélèvements. En tout cas, nous avions posé la question au mois d'avril, parce que c'est pas si simple de faire 700 000 tests, ça se fait pas en claquant des doigts. Il y a effectivement le côté humain, le côté matériel. Donc encore une fois, ce qui est regrettable, c'est que quand on fait des annonces, il faut prévoir leur faisabilité, c'est-à-dire faire en sorte que le process soit prévu, mais dans tous ses détails. Et c'est ça qui est un peu anxiogène dans la situation actuelle, c'est qu'on fait des annonces, elles sont pas suivies d'effets. Vous pourriez avoir le même débat sur le masque. Encore une fois, il y a eu beaucoup d'allers-retours de la part du gouvernement, et je crois qu'il vaut mieux une parole cadrée, précise et suivie des faits, plutôt que de refaire chaque semaine des annonces qui ne sont pas toujours suivies des faits.
Alors, justement, Valérie Rabault, vous parlez du masque. Est-ce que vous comprenez la stratégie du gouvernement? Faut-il porter le masque à l'extérieur, à l'intérieur? Laisser le choix au maire, au préfet? Comment ça doit se passer, selon vous?
Je pense qu'il faut faire une priorité dans les choses. Moi, je préfère qu'on porte le masque à l'extérieur plutôt qu'on ait à subir un reconfinement. Donc il faut, dans la hiérarchie des valeurs, oui, je préfère que le masque soit porté plutôt,
mais ça doit
plutôt
être une obligation
qu'avoir à reconfiner.
Sur tout le territoire ou laisser l'appréciation?
La deuxième chose à laquelle je crois, c'est qu'il faut avoir une vision territorialisée. C'est ce qui a manqué, à mon avis, pendant le confinement. Il faut qu'on puisse pas appliquer forcément les mêmes règles partout, que ce soit précis, mais que ce soit clair, qu'on dise pas un coup il y a le masque. Enfin, on voit bien que ça pose aujourd'hui des questions, et je souhaiterais que sur ce point-là, le gouvernement ait une parole claire.
Elle n'est pas claire.
Si vous me demandez mon avis,
elle n'est pas claire.
Non, pas suffisamment claire. Si vous me demandez mon avis, je pense qu'il vaut mieux porter le masque à l'extérieur plutôt qu'avoir à se reconfiner, parce que ça crée beaucoup plus de dommages que seulement porter le masque.
Donc vous seriez plutôt favorable à une obligation généralisée sur l'ensemble du territoire. Ben, ça, ce serait clair.
Si on voit que le nombre de cas augmente, oui, il vaut mieux en passer par là plutôt qu'avoir à reconfiner le pays, parce que reconfiner, ça signifie des dommages économiques, donc des dommages sociaux. Et ça abîme la société.
Est-ce que le gouvernement doit faire un geste supplémentaire sur justement le prix du masque? Il est encadré aujourd'hui. Est distribué
toujours gratuitement. Toujours, parce que vous montriez cette vidéo du Premier ministre le 28 avril dernier.
Vous aviez réclamé la gratuité.
Oui. Nous lui avons dit, mais la meilleure annonce qu'il aurait pu faire, c'est de dire qu'il y ait un... Alors, pas la gratuité tout le temps, mais qu'il y ait dans le fond un quota de masques qui puisse être donné à chaque citoyen, qui serait distribué en mairie via les CCAS, enfin via un processus clair où nos concitoyens pourraient aller récupérer leurs masques.
Mais pour l'instant, c'est exclu ça par le gouvernement.
Ah ben, le gouvernement l'a exclu. Il l'a exclu.
Est-ce qu'il faut aller plus loin, par exemple, renoncer à la TVA sur les masques pour faire un geste, pour inciter, faire baisser le prix encore pour un certain nombre de Français qui n'entrent peut-être pas dans la catégorie des plus précaires?
Je vous rappelle que la TVA qui a baissé sur les masques est passée de 20% à 5,5%. C'était un amendement que nous nous avions mis sur la table, y compris pour le gel hydroalcoolique. Donc nous avions dit, il faut tout de suite une première étape. C'était dans le fond une solution un peu dégradée, mais que nous avons quand même mis sur la table, puisque le gouvernement avait refusé la gratuité. Alors moi, je dis pas la gratuité éternellement, mais pour un quota de masques qui aurait pu être distribué à la population. Donc on va pas dire, si vous mettez la TVA à zéro, moi je pense qu'il faut qu'ils aillent plus loin, qu'ils disent, voilà, on distribue un quota de masques pour chaque citoyen, que ce soit dans les mairies, et que certains ne renoncent pas à porter le masque parce que ça coûte trop cher. Effectivement, quand vous avez une famille, deux ou trois enfants, plus deux parents, ça commence à faire une petite addition à la fin du mois.
Il y a quand même un accès relativement facile au masque. Il y a des collectivités locales qui en distribuent.
Mais parce que les collectivités locales ont pallié le manque de l'État.
Des entreprises aussi.
Les entreprises aussi. Les collectivités locales, au tout début, ont pallié le manque de l'État. Il y a ça, je les remercie d'ailleurs. Mais encore une fois, si vous voulez avoir une vraie stratégie nationale, c'était à l'État de l'impulser et d'y mettre les moyens. Parce que le Premier ministre, toujours dans sa fameuse intervention que vous avez montrée, avait aussi annoncé que
l'ancien Premier ministre,
avait annoncé un stock de masques qui serait donné notamment aux personnes qui ont les moins de moyens. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Et c'était le 28 avril, l'annonce. Donc là, le nouveau Premier ministre, actuellement en poste, a dit qu'il allait le faire. Mais pour l'instant, c'est lettre morte.
Trois budgets rectifiés ont déjà été examinés par le Parlement, Valérie Rabault, pour une enveloppe de plus de 460 milliards d'euros, incluant des prêts et des garanties de l'État. 100 milliards encore attendus fin août dans le cadre du plan de relance. Avant d'entrer dans le détail de ce plan, Emmanuel Macron avait dit « quoi qu'il en coûte », est-ce que pour vous la promesse est tenue ?
Non. Alors déjà, on somme des choux et
non,
des
carottes. Non, elle n'est pas tenue.
Non, elle n'est pas du tout tenue. Déjà, on somme des choux et des carottes. Sommer des garanties pour faire un gros montant, c'est 300 milliards d'euros. C'est pas de l'argent qu'on injecte directement dans l'économie. C'est une forme d'assurance que l'État assure pour les entreprises. Nous, ce que nous constatons dans l'ensemble de ces trois budgets rectificatifs, c'est qu'effectivement, il y a un soutien qui a été le bienvenu aux entreprises, avec notamment le chômage partiel qui a été mis en place. Mais vous savez, l'économie, elle marche sur deux jambes. Il y a à la fois soutenir les entreprises, puis soutenir les ménages qui font tourner la machine, c'est-à-dire qui consomment. Ce qu'on a vu, c'est que le soutien aux ménages, il n'y a quasiment rien. Quasiment rien dans ce budget. Il y a eu 150 euros, enfin, qui ont été accordés aux familles les moins aisées, celles qui sont bénéficiaires des minima sociaux. Nous avions demandé plus. Et quand on regarde ce que font nos voisins, l'Allemagne par exemple, l'Allemagne qui d'habitude a toujours une stratégie de dire je soutiens les entreprises et je fais moins de politique, ce qu'on appelle de la politique de la demande, c'est vis-à-vis des ménages. Là, elle a mis le paquet sur la table. Elle a fait baisser la TVA de 3 points. Elle a donné 300 euros par enfant pour que la machine continue. Et ça, le gouvernement ne le fait pas, a oublié cette seconde jambe de l'économie qui est de dire on soutient la demande, c'est-à-dire des ménages, c'est-à-dire leur capacité à pouvoir faire tourner la machine économique et donc à consommer dans notre pays.
Le chômage partiel, c'est aussi une aide indirecte aux ménages ou même très directe quand même aussi, non ?
Oui, mais c'est sous le volet entreprise, parce que si les entreprises n'étaient pas remboursées du chômage partiel, elles auraient sans doute peut-être licencié. Voilà. On est d'accord sur ce point-là, c'est entre les deux. Mais quand vous regardez ce qui se passe, encore une fois, sur les autres économies en Europe, on est en retard. Et sur ce point-là, nous avons fait encore là aussi plusieurs propositions de dire un chèque vacances pour les familles les moins aisées, pour faire en sorte qu'elles puissent aussi participer. Quand on va quand on part en vacances, qu'on s'arrête dans un petit restaurant, qu'on loue un camping, ça participe de la relance. Ce point-là a été oublié par le gouvernement et je crains que ça nous coûte très cher à la rentrée.
On va continuer d'évoquer avec vous Valérie Rabault, le plan de relance de l'économie du gouvernement. Mais d'abord, il est l'heure de faire un point sur l'info. Le fil info, 8h41, c'est avec Marc Potvin.
Emmanuel Macron à Toulon en fin de matinée pour un déplacement sur le grand âge et l'autonomie. Aussi pour adresser un message de prévention, rappeler l'importance des gestes barrières alors qu'apparaissent dans certaines régions des signes de reprise de l'épidémie de coronavirus. Le port du masque fait partie des moyens pour lutter contre le Covid-19, mais une frange de la population ne se sent pas concernée, regrette sur France Info le secrétaire national du syndicat Unité SGP Police. police, des personnes qui, selon lui, ne comprennent pas que la consigne sur le port du masque varie d'un endroit à l'autre. Toulouse va à son tour imposer le port de cette protection en extérieur, rapporte France Bleu Occitanie. Les zones les plus fréquentées de la ville devraient être concernées. Et puis des vents jusqu'à 140 km/h accompagnent l'ouragan Isaias. Il a touché terre cette nuit dans l'État américain de Caroline du Nord. Les autorités mettent en garde contre le risque de fortes pluies potentiellement meurtrières.
Le 8-30 France Info, Julien Langlais, Neil Alatrousse.
Et notre invité ce matin, Valérie Rabault, députée socialiste du Tarn-et-Garonne, présidente du groupe socialiste et apparentée à l'Assemblée nationale. Neila, c'est à vous.
Le plan de relance gouvernemental sera présenté le 25 août au Conseil des ministres. Les élus socialistes martèlent que ce plan de relance arrive trop tard. C'est le reproche que vous faisiez d'ailleurs à Jean Castex, le Premier ministre.
C'est vrai. Je lui ai dit qu'il n'était pas en mode urgence.
Dès son discours de politique générale, effectivement. Mais s'il avait été présenté plus tôt, est-ce qu'il n'aurait pas été rédigé à la hâte? Est-ce qu'on n'aurait pas eu cette accusation d'un plan qui arrive trop tôt, qui a peut-être été préparé dans l'urgence
Expliquez-moi comment les Allemands arrivent à faire un plan de relance le 3 juin. Et nous, il faut que nous attendions le 24 ou le 25 août.
Comment vous l'expliquez?
Je ne l'explique pas. Franchement, je pense que ce sont 2 mois de perdu et que là, on n'a pas le droit de perdre du temps. Le Premier ministre nous a écrit au président de groupe pour nous demander nos idées. Alors évidemment, je lui ai répondu avec mon collègue Patrick Kanner. Nous avons bâti un plan de relance de 130 milliards d'euros. Oui, le sénateur Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat. Nous avons bâti un plan de relance avec nos deux groupes de 130 milliards d'euros qui s'articule à la fois pour soutenir l'économie, pour soutenir les ménages. Nous avons notamment mis une prime climat. Une prime climat qui est de dire il faut arrêter de parler en permanence des passoires thermiques et ne rien faire. C'est dire, aujourd'hui, il y a des subventions qui sont données pour aider nos concitoyens à changer leur chauffe-eau, à mettre de l'isolation chez eux, mais ça représente au maximum 30% de la dépense. Donc s'ils n'ont pas les moyens de payer les 70%, il ne se passe rien. Donc ce que nous faisons, c'est un mix entre des subventions et une avance remboursable. C'est-à-dire, ça permet d'enclencher un vrai mouvement sur l'économie. Ça crée de l'activité ici, c'est pas délocalisable. Ça fait baisser la facture de chauffage et ça réduit les émissions de CO2.
Mais il y a une partie de ce plan de relance qui sera consacrée et à la transition écologique et à cette écologie du quotidien.
J'entends ce que vous dites. Cette proposition-là, nous l'avions faite il y a déjà un an et demi. Est-ce que vous croyez que la majorité l'a voté? Eh bien, la réponse est non. Donc, moi, je dis qu'on perd trop de temps et que quand on est confronté à une crise telle que celle que nous vivons, qui n'a jamais été connue, en tout cas, nous, tous autour de la table, on était trop jeunes pour en connaître d'autres, eh bien, il est clair qu'on n'a pas le temps d'attendre. Et je ne comprends pas pourquoi les Allemands arrivent à sortir un plan de relance le 3 juin et que le gouvernement français doit attendre le 24 août. C'est beaucoup trop tard.
Alors, le gouvernement, Valérie Rabault, assure que les impôts des Français n'augmenteront pas. Est-ce que l'engagement est tenable, selon vous ?
Nous avions là aussi demandé dès avril vous l'appelez comme vous voulez, une réunion de financement, puisque le gouvernement a fait comme seul choix de faire reposer tout le financement de la relance sur l'augmentation de la dette. Bon. Quand il fait ça, ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un qui paye à la fin des fins. Et en faisant ça, il fait payer tout le monde. Nous nous disions, il faut à un moment donné qu'il y ait une contribution des plus aisés, comme ça s'est fait dans toutes les crises. Je rappelle que même Nicolas Sarkozy, en 2011, avait fini par le faire, notamment pour les personnes qui gagnent plus de 250 000 euros par an. Donc, encore une fois, en fait, c'est un peu de la fuite en avant, ce que fait le gouvernement.
Est-ce que je
profite de votre micro pour redemander ce qui est une conférence de financement, qu'on se mette tous autour de la table et qu'on dise, voilà, quelle est la partie qui doit être financée par la dette, quelle est une contribution qui doit être faite. Et puis, le deuxième volet, et je pense que les Français y sont très attachés, c'est de dire que quand on soutient les entreprises, il faut aussi qu'il y ait je sais pas comment il faut le dire, pas un contrat, mais des contreparties. Ça peut pas être un soutien chèque en blanc. Parce que à chaque fois qu'on soutient, c'est l'argent du contribuable français qui est mis en jeu.
Donc ça fait 2 points. Écologique et social, notamment.
Écologique, social et économique, bien sûr.
Dans la cagnotte des mutuelles et des complémentaires santé, comme envisage de le faire le gouvernement?
Alors, je ne sais pas ce qu'il envisage de faire pour l'instant. J'ai entendu effectivement des rumeurs comme vous. Ce qui est sûr, c'est pas les complémentaires santé, mais les assureurs n'ont pas totalement assuré leur rôle dans l'économie.
Notamment, pendant la crise,
vis-à-vis de toutes les entreprises qui ont pris une assurance perte d'exploitation. Donc là aussi, nous avions fait une proposition de loi pour un peu les inciter à être un peu plus généreux et à mettre à contribuer au fonds de solidarité. Bon.
Là, c'est pas les assureurs, c'est les complémentaires santé.
Les complémentaires santé.
Moi, je voudrais aussi des économies.
Il faut regarder exactement ce qu'il en est, mais le gouvernement a un peu tendance à donner d'une main et à reprendre de l'autre, donc il faut quand même bien regarder le schéma. Et ça me gêne toujours de parler d'une mesure qui est pas encore sur la table. Est-ce que vous savez? Non, mais c'est vrai, on peut épiloguer, voilà, se faire plaisir, mais bon, je vous promets, je vous donnerai vraiment mon avis quand il l'aura mis sur la table, s'il la met sur la table.
Valérie Rabault, est-ce que tout l'effort doit reposer sur l'État? Quel rôle, notamment pour les départements, pour les régions? Emmanuel Macron fait un déplacement aujourd'hui sur le thème du troisième âge et de l'autonomie et du grand âge. Les auxiliaires de vie, typiquement, la prime, elle doit être versée par l'État, par les départements?
Elle doit être versée par l'État, et si elle est versée par les départements, elle doit être compensée par l'État. C'est une crise qui a un retentissement national. L'État doit assurer son rôle là-dessus.
C'est le rôle de l'État, c'est pas le rôle des collectivités.
C'est le rôle de l'État.
Très bien. Vous mettez en garde l'État contre la réduction de son train de vie. Vous demandez à ce qu'il n'y ait pas de stabilisation des effectifs de la fonction publique, que les administrations continuent à alimenter le carnet de commandes.
Il faut que les administrations continuent à alimenter le carnet de commandes. Et on a vu la semaine dernière, ça a été pour moi la grosse surprise de la note de l'INSEE, c'est de dire que la consommation des administrations publiques, c'est-à-dire l'État et toutes les collectivités locales, a baissé de 8%. Or, on sait que c'est à ce moment-là qu'il fallait qu'elles soutiennent vraiment l'économie. Ce qui s'est, je ne vais pas tout le temps parler de l'Allemagne, hein, mais ce qui s'est passé en Allemagne.
Vous en avez beaucoup parlé quand même.
Je sais, je reconnais, je ne vais plus en parler.
C'est le fameux modèle allemand.
C'est pas copier le modèle allemand, c'est de dire que l'Allemagne, qui a une idéologie très forte de dire je soutiens l'entreprise et la consommation suivra, a fait un virage à 180 degrés. Et ça, c'est extraordinaire. Et nous, on est très en retard pour soutenir ce deuxième pied de l'économie, qui est de dire on soutient d'un côté les entreprises, mais il faut qu'on soutienne la consommation. Il faut que celles et ceux qui n'ont plus les moyens, notamment parce que ils ont subi le chômage partiel ou parce que, par exemple, quand leurs enfants allaient à la cantine, le repas leur coûtait 1 euro ou 2 euros. Là, ça a coûté beaucoup plus cher et pendant 6 mois de l'année. Donc ça, c'est une réalité. C'est la réalité du pays qu'il faut entendre.
Valérie Rabault, une dernière question. Est-ce qu'il faut un moratoire sur les réformes, l'assurance chômage reportée au 1er janvier et puis les négociations, la concertation sur les retraites qui reprend à la rentrée?
La réponse est oui et oui. Voilà, il faut stopper cette réforme de l'assurance chômage qui, quand il y a un temps de crise, met encore plus à mal le pays. Et la réforme des retraites, je rappelle qu'elle devait rentrer en vigueur à partir de 2022, donc je ne crois pas qu'il y ait urgence à la relancer tout de suite.
Merci beaucoup Valérie Rabault, députée socialiste du Tarn-et-Garonne, présidente du groupe socialiste et apparentée à l'Assemblée nationale. Merci aussi Neyla Latrousse.